Eh bien, nous allons revenir en fait sur la conférence mondiale AIDS 2022, la conférence mondiale donc sur le sida, le VIH, et nul autre pour en parler que le docteur Régent Thomas, qu'on connaît bien, qui est aux premières loges, si on peut appeler ça comme ça, de la lutte contre le VIH et le sida au Québec. Régent Thomas, bonjour.
Bonjour.
Alors, nous, on se connaît depuis de longues dates. Alors, si les gens ne soyez pas surpris si je tutoie Régent, parce qu'on se connaît bien. Régent, qu'est-ce qu'on a appris à cette conférence au niveau scientifique?
Oh mon Dieu, tu me poses ça comme ça.
Qu'est-ce qu'il y a de nouveau? Qu'est-ce qu'il y a de nouveau là-dedans qui est important, là, qu'on devrait retenir?
Bien, qu'est-ce qu'il y a de nouveau? D'abord, cette conférence-là est importante. C'est la première depuis de nombreuses années. On vient de passer à travers la COVID. La COVID a eu un impact très négatif sur la recherche du VIH et les nouveaux traitements. Et dans de nombreux pays, tuberculose, perte d'accès au traitement du VIH, perte d'accès au traitement de la prévention. Ça, c'est le premier appel. De façon générale, de se réengager dans la lutte. Le sida, c'est une épidémie silencieuse, mais tu sais, le VIH demeure une maladie transmissible, mortelle, si elle n'est pas traitée.
Oui.
Alors, on a aussi parlé beaucoup du dépistage. Dans les nouveaux traitements, il y a deux, trois affaires dans les nouveaux traitements, dont certains sont déjà commencés. La question de traitement injectable. Actuellement, on a déjà des patients à Montréal qui prennent ce traitement-là. Il s'agit donc de prendre, au lieu de le prendre par oral, ils prennent une injection aux 2 mois. Et ça semble démontrer de très bons résultats. Ce même traitement, d'ailleurs, a été démontré pour la PrEP, pour la prévention. Donc, on a présenté au Congrès de Montréal une étude qui démontre l'efficacité d'une thérapie intramusculaire aux 2 mois pour prévenir le VIH. Alors ça, c'est intéressant parce que souvent, prendre une pilule tous les jours pour les jeunes en prévention, peut-être que si on est malade, pas compliqué, mais les gens sont plus sérieux ou quand c'est en prévention, des fois, on analyse toujours le risque. Donc, il y aurait certainement une meilleure adhérence. Mais
oui,
tout ça demande des ressources humaines. Sinon, ce qui s'en vient, mais il y a beaucoup d'études qui s'en viennent avec des traitements, peut-être même intramusculaires, même sous-cutanés, idéalement, parce qu'intramusculaire, il y a quand même beaucoup de liquide et ça fait un peu mal. Ça revient vite aux 2 mois. Des traitements, peut-être une fois par 6 mois. Des traitements comprimés une fois par... Ça, c'est toutes des choses qui sont sous étude actuellement. Puis je dirais qu'on va avoir vraiment des nouvelles pas avant 2-3 ans.
Oui.
Sur ces choses, mais c'est quand même intéressant. Ce qui est intéressant, Denis Martin, bon, la COVID, un chercheur montréalais, Nicolas Chaumont, disait que la COVID a fait perdre 5 ans de recherche. Oui, oui. Alors ça, c'est triste. Alors il faut se relever les manches. Et tu sais qu'à Montréal, 60% des gens qui se font dépister pour le VIH, qui sont diagnostiqués pour le VIH, c'est la première fois qu'ils passent un test.
Ça va pas. Donc, bien, ça. Ouais.
Non, puis 40% sont infectés depuis plusieurs années parce que leur système immunitaire est déjà atteint. Là, on est quand même dans un pays riche, là, où
ouais,
normalement l'accès au dépistage. Alors, ben, c'est beaucoup lié aussi à la stigmatisation, la peur de VIH, à toutes sortes de
ben, c'est quelque chose dont on a beaucoup entendu parler, puis je pense que c'est là qu'on devrait aller, parce que au-delà de prendre des médicaments, d'abord, il y a aussi, on pourrait faire une heure là-dessus, toi et moi, mais au-delà des médicaments qui sont pas accessibles non plus pour tout le monde, ça, c'est un autre paire de manches, parce que dans l'hémisphère sud, c'est autre chose, mais il y a ce problème de la stigmatisation, et c'est grave, là, puis il y a pas beaucoup d'actions qui semblent se passer à ce niveau-là.
Ben, il y en a eu au Congrès, il y a eu beaucoup de... Parce que là, on parle, comme tu dis, de pays riches. Alors, imagine dans les pays pauvres. Il y a eu beaucoup d'informations sur le fait I égale I.
Oui.
C'est-à-dire indétectable égale intransmissible. C'est de quoi qu'on sait depuis 10 ans, mais qui rentre pas beaucoup dans la population. Et on pense que si on fait mieux connaître ce concept-là, que ça pourrait lutter contre la stigmatisation et encourager les patients à se faire dépister. C'est donc les gens qui prennent une trithérapie, qui ont un bon suivi médical de façon régulière, ont une charge virale indétectable et ne peuvent plus transmettre le VIH quand ils sont sous traitement. Donc, le dépistage. Et c'est les recommandations de l'ONU-SIDA, hein, que 95% des gens connaissent leur statut sérologique, que 95% des gens aient accès à un traitement, et ainsi 95% des gens seront indétectables. Et ça, moi, je rajouterais la PrEP, le traitement préventif, permettrait d'éradiquer le VIH-SIDA, mais les experts qu'on a vus, qu'on a entendus, sont pas très optimistes que les objectifs seront réussis d'ici 2030.
Ouais, ça va être à suivre. Mais il y a un autre problème, ici au Canada particulièrement, c'est toujours la criminalisation de la non-divulgation de son statut sérologique. Quand on est intransmissible. Et ça, ça demeure un problème, là.
Oui, ça demeure un problème. Il y avait quand même eu une note du gouvernement Trudeau il y a 2 ans, demandant aux provinces de ne plus aller dans ce sens-là, parce qu'après ça, c'est provincial. Mm-hmm. Et c'est-à-dire que c'est souvent des histoires de vengeance parce que la personne n'a jamais été infectée. La personne a toujours fait attention, la personne VIH, et 3 mois, 6 mois, 1 an après, elle apprend qu'il y avait le VIH qui était indétectable, mais qui lui a pas dit, et elle n'a pas été infectée, mais elle ou il n'a pas été infectée. Et effectivement, et toutes les études démontrent que ça fait juste décourager les gens à se faire dépister, ça fait juste nuire, ça fait partie des obstacles à la prévention du VIH. Et imagine dans le reste du monde, je veux dire, être homosexuel est une peine de mort dans de nombreux pays. Alors comment voulez-vous faire de la prévention sur les homosexuels quand c'est une peine de mort?
Et les travailleurs et travailleuses du sexe aussi, dans certains pays, au Maroc, et puis l'utilisation des drogues par injection, il y a beaucoup de travail à faire. Hein.
On n'a pas fini. Tant qu'on n'aura pas une cure, tant qu'on n'aura pas un vaccin, la COVID a fait très, très mal, il faut le dire. On a découragé les gens à se faire dépister, etc. Mais même avant la COVID, dans les 10 dernières années, il y a peu de prévention, peu de campagnes de prévention. On fait comme... C'est une épidémie oubliée, le VIH, alors que c'est une maladie. Puis je veux dire, tu parlais de l'accès aux médicaments, même dans les virus, là. Moi, on a à l'actuel régulièrement des patients qui abandonnent leur traitement, temporairement, la plupart du temps, pour des raisons économiques. Mmh. Alors, le traitement devrait être gratuit. Il est gratuit à Vancouver, il est gratuit en France. Et c'est 16 000 personnes à peu près. C'est pas un gros budget, là. Ouais. Si on veut éradiquer le sida, faut pas que les gens cessent leur traitement pour des raisons financières.
Mais je donnais un exemple, parce que moi, personnellement, je prends le Biktarvie, ça coûte 1 395 $ par mois, ce médicament-là. Je le sais, je vois les factures. Bon, j'ai une assurance, mais il faut, en début d'année, il y a des franchises à payer. C'est très élevé, là.
Oui. Ben, il y a des pharmacies qui vont s'arranger avec le patient. Mais effectivement, si tu es sur le régime d'assurance maladie du Québec, ben là, c'est 1 200 $ par année. Souvent, les pharmacies vont faire des avances. Mais il y a des patients pour qui le 100 $, c'est ça ou manger. Oui. Puis moi, pendant la COVID, et tu as raison avec le fameux au début de janvier, là, c'est dur pour bien du monde. Et les gens qui ont perdu des assurances, qui ont perdu leur emploi, des serveurs de restaurants, pendant quelques mois, il y avait pas. Alors, et là, c'est pas mieux. Les gens sont malades. J'ai un patient qui a peut-être une pneumonie, qui a été hospitalisé. Combien ça coûte au système? Donc, sérieusement, il serait temps que on est dans un pays riche, là, quand même.
Qu'on se mobilise. Régent Thomas, c'est toujours un...
Régent Roy.
faut me pardonner. J'ai 61 ans, ça m'arrive encore de faire des petits lapsus comme ça. Mais donc, Régent Thomas, merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. C'est un plaisir.
Merci. Au revoir.
Au revoir.